Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission En revenant de l'Expo, merci de votre fidélité. Je vais rajouter un petit peu quelque chose à cette phrase que je prononce tous les vendredis et les dimanches soirs, soit le vendredi à 14h, soit le dimanche soir à 20h. Je vais rajouter un petit quelque chose, je crois qu'il est encore temps de se souhaiter une bonne année. On en aura tous besoin parce que les choses ne sont pas toujours faciles, loin de là. Et tous les vœux sont les bienvenus. Après, si ça fonctionne, c'est très bien, si ça ne fonctionne pas, eh bien on fera comme d'habitude. Cela dit, merci à Adrien qui est à la technique aujourd'hui. Vous êtes bien sûr Radio Plus FM. Bienvenue à notre invitée, Marie-Caroline Allermat. Elle dirige l'ALMA, rue du Plan-Palais à Montpellier. Bonjour.
Bonjour Maria.
Alors c'est un tout petit lieu, c'est tout petit endroit, mais c'est vraiment un très grand rendez-vous connu maintenant de beaucoup de collectionneurs. Grand rendez-vous artistique pour ceux qui aiment plus particulièrement l'abstraction radicale. On va en parler dans un instant. Souvenez-vous, Gilles Balmé qui était venu à ce micro nous avait parlé de cet endroit et nous avait parlé évidemment de Marie-Caroline avec laquelle il entretient de très bonnes relations parce que je crois qu'elle apprécie son travail et que lui apprécie tout à fait la façon dont elle travaille avec lui quand ils sont ensemble. Donc nous voulions en savoir un petit peu plus sur cette galeriste réputée. La première chose que j'aimerais comprendre, c'est ce que vous appelez, enfin c'est pas vous qui l'appelez comme ça uniquement, Marie-Caroline, c'est l'abstraction radicale.
Oui, alors c'est un terme effectivement qu'on emploie pas si souvent et que je vais nuancer un petit peu. Alors moi, je parlerai plutôt d'abstraction minimale. Je veux dire, le minimalisme, ça existe dans beaucoup de domaines, que ce soit la musique ou l'architecture. C'est un courant qui domine le XXe siècle et qui va plutôt se positionner, c'est ça qui m'intéresse, en rupture avec la figuration, je dirais la représentation figurative et narrative. C'est ça que je, peut-être, que j'évite, on va dire, mais en disant ça, je ne suis pas du tout définitive.
Ni sectaire.
Pas du tout, non, voilà. Et puis, bon, effectivement, l'abstraction, ça recouvre un champ extrêmement large, très vaste. Et depuis Mondrian, on va dire, en passant par Malevitch, hein, qui a quand même, en 1915, abouti à une simplification extrême avec son carré noir sur fond blanc, jusqu'à Olivier Mosset ou Claude Ruteau. Enfin, on a des formes très diverses de ce qu'on peut appeler une abstraction minimale. Ça caractérise, je dirais, peut-être une sensibilité qui est la mienne. Ça ne va pas forcément caractériser toute la programmation, loin de là. Et depuis 22 ans, les choses ont beaucoup évolué. Ça ne m'empêche pas de montrer des artistes qui font du monochrome, mais pas seulement.
D'accord, donc ça, je pense que ça va rassurer certains. Donc monochrome, je précise quand même aussi, c'est une seule couleur sur une toile. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que Soulages fait du monochrome, parce qu'en fait c'est une seule couleur sur une toile, ou est-ce que c'est l'aplat qui fait le monochrome?
Alors je dirais que c'est l'aplat et une couleur unique, et dans le cadre de la peinture de Soulages, je pense qu'il y a une telle épaisseur, une telle animation volontaire à la surface,
texture.
Dans la texture, dans le geste qui reste quand même très visible, et qui permet peut-être de décrire ce que l'on voit autrement qu'à travers le noir. Il n'y a pas que du noir chez Soulages.
Comme vous l'avez vu, non, il n'y a pas que le noir. D'ailleurs, il y a des toiles, effectivement, où il y a de la couleur, en vrai, comme on dit.
Oui.
cela dit, vous avez quand même eu un parcours, un cursus qui vous a amené à un moment donné à vous positionner comme galeriste. C'est courageux, mais il y a quand même tout un passé qui explique aussi cet allant vers l'art et cet art finalement assez difficile.
Alors j'espère qu'il n'est pas trop difficile, mais effectivement, j'ai une expérience qui est assez ancienne, mais qui est assez contrastée aussi, puisque en fait j'ai ouvert pour la première fois la galerie il y a 22 ans, et avant, j'ai un peu bougé, j'ai fait différentes choses.
États-Unis ?
Oui, j'ai vécu à Washington, effectivement, avant d'arriver à Montpellier, et à Paris avant.
Oui. Donc vous avez été en contact avec de très grandes galeries, de très grands endroits, et je pense que vous avez vous-même travaillé dans l'art.
Alors, pas vraiment. Si on revient à mes études, j'ai fait les Beaux-Arts à Paris.
Oui, quand même.
Mais j'ai repris d'autres études en sortant. J'ai commencé très jeune, j'étais diplômée très jeune, et c'était pas un malentendu, mais j'ai recommencé un autre cursus d'histoire de l'art. Et encore. Ensuite, j'ai travaillé pour la ville de Paris, en fait, avant de quitter Paris.
Oui, mais reste que la création a toujours été quand même au centre de vos préoccupations et de votre intérêt.
Tout à fait.
Voilà, voilà. Donc vous avez un parcours qui est culturellement vraiment ouvert vers...
Oui, absolument, absolument. Oui, et en fait, c'est en arrivant à Montpellier que j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un lieu.
Vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, que vous étiez quand même interpellée par la question de la création. Alors, au-delà, effectivement, de vos études et de cet intérêt que vous avez pour la création, pour l'art, je crois que la personnalité des artistes vous intéresse bien aussi. Le contact avec eux.
Ah oui, absolument. Enfin, quand on ouvre une galerie, on choisit un mode de vie. Hein. C'est au-delà, je dirais, de l'espace, on va dire, clos et limité de la galerie. C'est quand même une interaction permanente, je dirais presque 7 jours sur 7, H24. Mais bon,
vous vivez avec. Vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous êtes toujours dans cette recherche,
Tout
vous avez toujours quelque chose en tête, je suppose, pour la prochaine expo, pour celle qui est en cours.
On va appeler ça de la curiosité, mais voilà. Mais effectivement, ouvrir une galerie, c'est une façon de créer un lien avec son environnement. Et puis, derrière les multiples modalités, ça peut être aussi... Enfin, on peut essayer d'en faire un instrument de lecture et de compréhension de l'actualité. C'est un petit peu comme ça, je pense, que j'essaye de le traduire. Mais c'est un projet collectif, c'est un projet humain et c'est un projet solidaire.
Alors, collectif humain et solidaire, et pas que, parce qu'il y a aussi toute une administration qui est assez lourde en définitive. Quand on ouvre une galerie, quand on ouvre un lieu comme ça, c'est quand même, ça peut rester une entreprise.
Oui, bien sûr.
C'est pas ce qui vous pèse le plus.
Non. C'est une question de format après, oui.
Alors, c'est de toute façon assez courageux. Le lieu est important. Vous avez changé d'adresse plusieurs fois. Donc, quand vous êtes revenu à Montpellier, quand vous avez décidé que vous seriez galeriste, vous avez changé plusieurs fois de lieu, avec des adresses très différentes, et vous allez de plus petit en plus petit. Toujours en centre-ville, mais...
Disons que la première galerie, effectivement, était rue de la Valfer. J'y suis restée à peu près 5 ans. J'ai dû la quitter parce que le local a été vendu, donc je suis partie. Et à ce moment-là, j'ai choisi de m'installer rue Aristide Olivier, et j'y suis restée 10 ans. Et donc, les rues Aristide Olivier, c'était un assez grand lieu, avec une surface suffisante pour faire parfois 2 expositions dans le même espace, puisqu'il y avait un premier étage. Et j'avais proposé à un éditeur de livres d'artistes, les éditions Méridiane et Pierre Manuel, d'occuper le premier étage. Ce qui fait que pendant 10 ans, cette galerie était dédoublée par une activité d'édition.
Ils avaient cohabité.
Voilà, qui permettait au moment des vernissages de croiser les publics avec un public qui était plus intéressé, on va dire, par le livre que comme territoire partagé entre l'écriture et un geste d'artiste. Et puis, le public habituel des galeries à Montpellier.
Donc, il y avait une synergie, en fait.
Voilà, il y avait une excellente synergie et le lieu était extrêmement vivant. Et j'ai décidé de le quitter après 10 ans parce qu'il y avait quand même un problème d'étanchéité, ça c'est très très grave.
C'est un peu embêtant.
Et donc voilà, j'ai été inondée en 2014 et après j'ai décidé que...
Du coup, vous passez des 150 mètres carrés de la rue Aristide Olivier à 35 mètres carrés.
Oui.
Mais belle adresse quand même.
Voilà, alors
rue du Plan Palais, c'est une belle adresse.
J'ai décidé de changer complètement de logiciel et on va dire de m'installer peut-être dans un lieu plus accessible. Et à partir de là, de reconfigurer complètement les projets d'exposition. C'est-à-dire que je peux montrer peut-être 2 ou 3 œuvres. C'est pas grave, on les choisit avec l'artiste.
Elles sont pas perdues dans le lieu.
Elles sont pas perdues. Et on sait pourquoi on les a choisies.
Oui.
Ça resserre évidemment les enjeux. Ça précise aussi ce que l'on décide de montrer. Et ça n'exclut absolument pas d'élargir le champ des possibles. Si on souhaite connaître mieux le travail, ensuite il y a l'atelier. Enfin, il y a toutes sortes d'accès possibles au reste de l'œuvre.
Il y a un côté très japonisant dans cette sobriété, juste prendre 3 ou 4 petites choses comme ça pour donner envie et juste pas plus que ça.
Alors, on peut avoir un petit lieu et montrer des œuvres importante. Dans le format, je veux dire, on peut montrer une seule ou deux très grosses pièces, c'est pas très grave, justement. J'ai essayé de ne pas succomber, on va dire, à la facilité qui consisterait à montrer de petites pièces dans un petit lieu. Et à l'inverse, quand j'avais beaucoup de place, il m'arrivait de montrer de très petites pièces. Donc je pense que ce rapport à l'espace, il faut qu'il soit toujours un peu énergique et tendu.
On parlera sur l'exposition qui est encore en cours, parce que là c'est encore plus particulier.
Oui.
Ce sont des petites pièces, mais en grand nombre.
Voilà.
C'est quand même... pour être galeriste, comme vous comprenez le métier de galeriste, ça demande vraiment donc, d'avoir une ligne éditoriale. On en a parlé tout à l'heure en début d'émission, et on va en parler de toute façon tout au cours de l'émission. Il faut de la persévérance, il faut de la fidélité, et il faut de la curiosité. C'est ce que vous me disiez, ça, ces qualités-là, elles sont indispensables pour... En tout cas, c'est ce qu'il me faut, moi, pour faire ce que je fais.
Ah, je pense, oui. Je pense que ça caractérise aussi la personnalité de toutes les personnes qui s'associent à des projets artistiques, en fait, quels qu'ils soient.
Quand on vous voit, vous êtes une dame très, enfin tout à fait ravissante, très élégante, très calme, très posée. Et quand on vient dans votre lieu, il y a des choses qui sont quand même très différentes. Enfin, vous osez des choses extraordinaires et ça tient probablement à vos propres goûts, à cette espèce de courage, mais aussi à la relation que vous avez avec les artistes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous parlez beaucoup avec eux et que vous réussissez à intégrer leur univers qui, du coup, vous devient plus familier.
J'espère, oui, tout à fait.
Vous parlez toujours très bien des artistes qui sont chez vous, très longuement, très bien.
Ma chance, c'est d'avoir la liberté de ne montrer que des artistes que j'aime, que j'admire, parce que je pense que l'admiration est une condition déterminante, et avec lesquels j'ai une relation de confiance qui permet de monter un projet ensemble, comme je vous le disais, pas du tout dans une situation dominante au prétexte que les murs sont à moi, ou pas du tout. C'est leur lieu.
C'est ça.
Voilà. Et dans ces conditions-là, ça va créer une énergie qui fait que quand ils ne sont plus là, alors on ne remplace jamais un artiste, ça c'est clair. Quand il n'est pas là, on peut se substituer le temps de l'exposition et parler un peu en leur nom et surtout écouter le retour qui nous est fait sur leur travail. Mais cette énergie, elle vient effectivement des échanges qu'on a eus avant et puis d'une observation attentive, parfois ancienne d'ailleurs,
d'une
œuvre.
Oui, d'une grande adaptabilité aussi. Parce que, vous voyez, moi j'ai eu envie de vous rencontrer grâce à Gilles Balmet, parce qu'il m'a parlé de vous de façon très particulière. Pas du tout comme une galeriste, pas comme une amie, pas comme une admiratrice, pas comme quelqu'un de très particulier qui avait la faculté de s'adapter à la façon dont il travaille et à sa pensée, à sa création. C'est pour ça que je vous parle de cette approche que vous avez de l'artiste qui est quand même très particulière. Moi, je trouve.
Alors, je pense que cette approche, elle caractérise toutes les personnes qui ont une galerie ou un lieu d'art. Effectivement, il faut un peu de curiosité. Alors, par exemple, je ne pourrais jamais faire ce que je fais si je n'avais pas un accès à l'atelier.
Oui.
Je pense que c'est dans l'atelier que l'on comprend comment s'organise le travail, comment il s'anticipe, avec quels outils l'artiste travaille et quel est même son environnement au-delà de lui-même. Parfois, on perçoit des choses qui échappent à l'artiste parce qu'elles ne sont pas immédiatement sous son contrôle, mais elles vont contribuer à définir une sorte d'entité extrêmement particulière et pas forcément comparable. Enfin, voilà, on passe d'un univers à un autre.
On va faire une première petite pause. On va respirer un petit peu. Et justement, les artistes, on va en parler. Parce qu'il y a des artistes qui sont anciens chez vous, qui font partie de votre, comme on dit, du fond de la galerie, de la famille, de la tribu. Puis d'autres nouveaux, parce que vous n'êtes pas du tout fermé à l'arrivée de nouveaux artistes. Et c'est même presque ce travail-là qui motive aussi cet aller vers l'avenir et vers de nouveaux artistes. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes bien sur Radio FM+. C'est toujours Adrien qui est à la technique. Il ne nous a pas quittés. Et on va le retrouver de l'autre côté de ce disque. Marie-Caroline Allaire-Matt, vous êtes notre invitée aujourd'hui sur Radio Plus FM. Vous vous occupez de la galerie Alma. On a déjà commencé à parler un petit peu de ce lieu, donc qui est un tout petit lieu, des artistes avec lesquels vous avez évidemment des liens très privilégiés. J'avais le sentiment peut-être encore un peu plus privilégié que certains galeristes, parce que il y a chez vous, dans la façon dont vous parlez de vos artistes, entre guillemets, je dis le vous, entre guillemets, et tout le monde le dit, il y a vraiment une forme de incompréhension et de rentrer dans leur univers et de pédagogie extrêmement forte pour nous entraîner dans leur milieu et dans ce monde-là, dans le monde de leur création. Donc, un certain nombre d'artistes sont passés par chez vous. Pour certains, vous les avez connus très jeunes, ils sont toujours là. D'autres nouveaux arrivent au compte-gouttes parce que c'est très compliqué de réintégrer ou d'intégrer de nouveaux artistes quand on a une galerie qui a 22 ans. Donc, voilà, vous connaissez plein de gens avec lesquels vous travaillez depuis longtemps. Et je pensais donc, sur ces jeunes artistes que vous avez connus il y a longtemps, je pensais à quelqu'un, Nicolas Dauban, dont vous m'avez parlé. Et vous me dites, je le connais depuis 1983, il était encore...
Alors il est né en 83.
Ah, il est né en 83, oui.
Je ne le connais pas depuis sa naissance, mais oui. Oui, je le connais depuis la sortie, en fait, de l'École des Beaux-Arts de Perpignan.
Et donc, ce garçon, vous l'avez accompagné ?
Alors, oui, c'est un artiste qui travaille énormément, déjà, donc qui a une actualité quasi permanente et qui est même difficile à suivre, et qui a développé un univers autour d'intérêts assez, je dirais, cohérents, concentrés sur des questions vraiment essentielles. Dans une première partie, sur le monde carcéral, au début, grâce à un travail dans des résidences dans le monde pénitentiaire pendant une dizaine d'années. Et puis maintenant, il interroge plutôt des situations historiques de grande intensité. Et il va pointer la question de l'enfermement et de ses corollaires, mutinerie, évasion, etc. La résistance, la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est quelqu'un qui renouvelle en permanence ces sujets, mais quand même, comme je le disais, avec cette cohérence liée à des moments de grande intensité, et qui renouvelle aussi les médiums avec lesquels il répond à ces sujets.
C'est-à-dire qu'il a vraiment une œuvre sur des thématiques qui sont quand même relativement... dur, difficile. L'enfermement faisant probablement aussi allusion au propre enfermement dont on peut être chacun victime.
Aussi, bien voilà. Sûr.
Et cette impossibilité parfois d'en sortir, de s'évader totalement et de quitter ce qu'on a pu être pour être autre chose. Ça, c'est quelque chose... Il évolue toujours avec ce fond-là, mais la façon de le traduire et les techniques changent.
Énormément. Et il y a une grande inventivité dans les moyens qu'il se donne pour justement restituer, je dirais, des sujets qui sont d'une grande complexité, mais il utilise aussi bien effectivement la limaille de fer. Hein. Ses premiers dessins étaient faits par aimantation sur un fond blanc. Et il traduisait comme ça des images relativement dures, très inspiré par les prisons, voire même par d'autres artistes qui ont travaillé sur les prisons. Je pense aux gravures de Piranèse. Mais avec cette limaille de fer, ça devenait une sorte de vision un peu poétique, extrêmement étrange, difficile à décrypter. Et donc, il y avait cette distance qui en faisait un projet artistique et pas forcément une restitution journalistique ou agressive. Pas du tout. Mmh. Mais il a travaillé avec le béton saboté pour parler justement d'actes de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, où justement il était question de défaire l'impossible, c'est-à-dire les bunkers, toutes ces architectures bétonnées faites pour résister au bombardement. Il y a les mutineries à travers les briques, les tuiles. C'est quelqu'un qui fonde toujours son travail sur une réalité historique extrêmement bien documentée, mais nourrie d'une réflexion qui transforme un enjeu qui pourrait être très distancié par le fait déjà que c'est pas sa génération, c'est pas son expérience. Et c'est cette distance qui va en faire effectivement une expérience partagée par tous. Voilà. La puissance de travail de Nicolas Dauban est également exceptionnel, parce qu'il a cette capacité non seulement de gérer des projets et des enquêtes personnelles, en quelque sorte.
Oui, parce que vous disiez que c'était très documenté, oui, effectivement.
Mais aussi de les montrer.
Oui.
Donc là, il a une actualité, il va présenter une exposition au mémorial de la prison de Montluc, qui, je le rappelle, triste lieu dans lequel Klaus Barbie a opéré pendant des années, prison dans laquelle il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont passées avant d'être déportées.
Donc, lien aussi avec la résistance pour Saint-Amand-Montreux.
Exactement.
Donc, prison, résistance.
Jean Moulin étant sans doute le plus connu d'entre eux. Je rappelle que Klaus Barbie y a fait un court séjour symbolique en 1983, avant son procès.
C'est l'année de naissance
de Nicolas Dauban.
Nicolas Dauban.
Oui, effectivement, je n'avais pas pointé cette coïncidence. Mais voilà, donc, et ce site historique est devenu un mémorial qui va rendre hommage, évidemment, au milieu de victimes, mais également documenter cette époque et la résistance du Vercors en particulier. Et donc, Nicolas entame comme ça une série d'expositions liées à différents sites de mémoire, dans lesquels il va travailler en résidence jusqu'à faire une restitution. Et donc, au mémorial de Montluc, ça commence à la fin de cette semaine.
Bien, donc ça c'est une
peut-être une actualité.
Une actualité, voilà. Peut-être un endroit où aller pour voir ce travail.
Voilà.
Et la façon dont des artistes contemporains rendent hommage et réinterprètent des faits historiques, puisque c'est le cas de Nicolas Dauban, d'autres le font aussi différemment, mais Nicolas est très...
Oui, il est quand même
bien. Il y a un aspect physique chez lui aussi. Le physique, se mettre lui-même dans les conditions physiques difficiles, etc. Parfois, je crois qu'il a refait le Tour de France, c'est ça ?
Non, alors c'est pas tout à fait ça. Non, c'est simplement il a fait une... Il aime beaucoup le vélo.
Oui.
Et son père aussi.
Oui.
Et donc, moi, je l'avais rencontré avec effectivement une petite vidéo qui montrait un cycliste sur le Mont Ventoux, qui va être une des premières victimes, on va dire, d'efforts comme ça, qui était parfois un peu dopé. Mmh. Voilà. Donc, il va restituer cet événement à travers un document d'époque et l'associer à peut-être un paramètre beaucoup plus personnel.
Oui.
Je pense qu'effectivement, le vélo, pour lui, a une importance particulière.
Oui.
Mais lui-même ne se met pas, je crois, dans des situations de danger réel.
Non.
Mais
il connaît l'effort physique
bien, voilà, il connaît
que
bien
demande le vélo.
Absolument.
Pour pouvoir, effectivement, le traduire ensuite dans un...
Oui.
Dans un,
voilà. Oui, oui. Alors ça, c'est une œuvre très ancienne qu'il avait faite et qui m'avait beaucoup troublée. Oui, effectivement, on a commencé par là.
Donc vous avez contribué à son parcours d'une certaine façon, puisque maintenant ça fait, je calcule, ça fait pratiquement 40 ans. 83, donc ça c'est sa naissance, donc non, ça fait 20 ans.
Oui, alors ça fait pas tout à fait 20 ans, ça fait peut-être une bonne douzaine d'années, un peu plus, qu'on se connaît bien.
Oui.
Et je vois son travail évoluer. Donc je le montre de temps en temps, je l'ai montré aussi dans une manifestation qui s'appelait In Situ. Mmh. Mais je ne suis absolument pas la seule. Hein. Il a également une galerie à Paris qui le montre très régulièrement et très bien. Il a été vu, son travail a été vu aussi au Palais de Tokyo il n'y a pas très très longtemps. Enfin, son travail est très bien montré. Ça c'est formidable, mais c'est l'énergie de ceux qui l'accompagnent. Et c'est sa propre stratégie qui est de ne jamais arrêter. Il n'y a pas de pause.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement les artistes aujourd'hui ont aussi des stratégies. Pour montrer leur travail dans certaines conditions. Enfin,
oui, je crois qu'il le faut.
Voilà, c'est peut-être ce qui fait la différence avec des périodes précédentes. Les gens qui sortent maintenant des Beaux-Arts ou qui commencent une carrière ont souvent quand même une ligne, parfois intransigeante hein, par rapport à leur travail, mais une ligne pour proposer ce travail.
Oui, mais disons qu'ils sont assez autonomes, on va dire ça comme ça. Je crois que c'est très bien d'ailleurs. Et ils sont maîtres de leurs décisions. Ça, c'est aussi fondamental. Donc, tout ce qui se passe est encadré par un contrôle, on va dire, des situations.
Nous allons parler d'une autre artiste. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Mona Jung-un Kim.
Alors, Mona Jung-un Kim, oui, absolument.
Qui est une autre artiste que vous aimez bien, que vous exposez, et qui est très différente Enfin, ça montre la diversité quand même.
Oui,
aussi.
Alors il y a effectivement une grande diversité. Donc on l'a vu, hein, de toute façon, le travail de Nicolas Dauban bien, est concentré sur des sujets très cohérents. Après, ça peut prendre des formes diverses, en volume également. Et Mona Jungen Kim, donc je l'ai présentée deux fois à deux ans d'intervalle.
Alors elle est connue des Montpelliérains.
Oui.
Parce que c'est elle qui a fait
le dôme des Halles des Sacs en 2017.
Ça peut vous situer.
Oui, absolument. Elle avait répondu donc à une proposition pour faire une commande publique et elle a réalisé ce dôme qui a évidemment contribué à la faire connaître très rapidement alors qu'elle était encore à l'École des Beaux-Arts de Montpellier. Alors voilà une artiste qui est arrivée en France avec une licence de cinéma, une licence de philosophie, donc déjà je dirais une certaine maturité, qui a choisi de s'installer à Montpellier. On s'était rencontrés en 2014 à l'occasion d'un commissariat que j'avais fait autour des années croisées France-Corée. Et par la suite, eh bien, on a continué à garder le contact. Et je lui avais dit, bon, ben, quand tu seras prête, on fera un projet ensemble. Et ce premier projet s'est appelé Doublage et consistait à montrer une dizaine d'enceintes lumineuses dont elle avait effacé toutes les marques écrites de façon à pouvoir projeter sur ses enceintes enseignes avec une application qui s'appelle Doublage du texte dans 10 langues assez peu usitées. Et donc le sujet était effectivement la compréhension du monde à travers son langage et la capacité ou non de traduire ce que l'on voit. En supposant que dans les années qui viennent, effectivement, on aura peut-être plus besoin de savoir parler les langues étrangères. On aura diverses applications, on va dire des béquilles numériques qui nous permettront de comprendre instantanément notre environnement.
Épargnez-nous l'intelligence artificielle pour ce début d'année.
On va pas en parler tout de suite.
Réfléchissons.
Mais enfin, c'est quand même un enjeu qui va intéresser les artistes, je crois.
C'est certainement un chemin aussi d'évolution de nos sociétés.
Tout à fait. Alors, bon, cette application Doublage a révélé, on va dire, une réflexion sur justement ce qu'est l'étrangeté, ce qu'est l'étranger dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Et c'était passionnant. Et là, plus récemment, on a montré une exposition qui s'appelait « It Plastic ». Donc, à travers cette injonction, elle pointait la consommation des nanoplastiques à travers le...
Alors, les nanoplastiques, c'est les particules infinésitées...
Oui.
Petite.
C'est plus petit que le microplastique, voilà. C'est invisible, mais on en consomme énormément à travers la consommation d'eau dans les bouteilles en plastique, par inhalation à travers le nylon, et on sait maintenant qu'on en a en permanence dans le sang. Donc, à travers un projet qui était vraiment complètement dystopique et, entre guillemets, très imaginatif, elle imaginait qu'on ne pourrait survivre qu'à condition de s'adapter.
C'est ça.
À cette ingestion de plastique.
Ce qui est probable.
Le corps évolue et se plastifie. On atteint une espèce d'immortalité.
C'est vrai que
c'est assez passionnant.
Ces questions environnementales sont vraiment dans les questionnements effectivement, qui préoccupent les jeunes artistes contemporains, même peut-être certains plus âgés, mais beaucoup. Cette question environnementale ressort très régulièrement dans les expositions, dans les galeries et dans le travail de ces artistes. Encore un petit peu de musique et on se retrouve pour parler du coup de l'actualité de la galerie et parler d'une exposition qui est encore en cours et qui est double puisqu'elle elle se fait avec votre galerie Alma et le musée Fabre.
Voilà.
À tout de suite.
Hush now, don't explain, there ain't nothing to gain, I'm glad that you're back. Explain. Quiet, baby. Don't explain. There is nothing to gain. That little lipstick. all explain. You know that I love you and what love endures. All my thoughts are of you, for I'm so completely yours. Don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, don't explain. Don't you know you're my joy and you're my pain? So completely yours. I don't want to hear nobody chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, explain. You're my joy, you're my pain. My life is yours, love. Don't explain.
Nous sommes toujours en compagnie de la galerie Alma, représentée par son âme, Marie-Caroline Allermat. Adrien est toujours là à la technique et vous écoutez bien sûr Radio FM+. Et vous êtes dans l'émission En venant de l'Expo. Là, je crois que vous savez tout sur ce dont nous allons vous parler maintenant. C'est la troisième partie de cette émission avec, nous avons évoqué les artistes qui font partie du fond de votre galerie, que vous connaissez souvent depuis longtemps, que pour certains, vous les avez accompagnés depuis leur début. Et je disais que vous n'étiez pas fermé, évidemment, à découvrir d'autres artistes. C'est le cas, par exemple, de Anna Jacou, tout en sachant que cette jeune femme, qui, je crois, là, pour le coup, a 23 ans, est toute jeune, tout en sachant que ces jeunes artistes ont peut-être un fonctionnement, on en a dit deux mots tout à l'heure, un peu différent de leur père ceux qui les ont précédés. C'est qu'ils ont un temps pour travailler, mais aussi un temps pour communiquer.
Oui, alors je pense que de toute façon, cette jeune génération d'artistes, comme je le disais tout à l'heure, est très autonome, que ce soit à travers les réseaux sociaux.
C'est ce que j'allais vous dire.
Voilà, ou je dirais un goût pour le partage sous toutes ses formes, communique très rapidement autour du travail. Donc c'est vrai que les images circulent énormément. En ce qui concerne Anna Jacou, je ne l'ai pas connue à travers les réseaux sociaux, parce que justement, elle ne montre pas son travail, elle montre des situations, un peu décalées, mais qui vont peut-être de cette façon parler aussi d'elle. Donc c'est un décryptage qu'il faut faire. Oui, alors Anna Jacou, elle a commencé les Beaux-Arts à Montpellier, puis elle est toujours à l'École des Beaux-Arts à Paris, et je présenterai son travail donc en septembre 2024. Donc on prépare, là on se voit jeudi, on prépare ensemble ce projet. Et c'est vrai qu'en voyant ces dessins qui finalement font l'objet d'un protocole très particulier, puisqu'elle dessine avec une machine à écrire, hein, c'est pas la première, mais disons que la forme est inédite quand même, la restitution du travail est très inventive. Et là je me suis dit que je n'allais pas attendre. C'est une façon de dire les choses. Et qu'on pouvait déjà faire quelque chose. Je ne dis pas que c'est trop tôt. Je pense que si un travail est déjà abouti, et compte tenu, comme vous le disiez, du format de la galerie, on peut pointer un élément qui me semble abouti. Voilà. On ne va pas partir dans toutes les directions. On ne va pas faire une rétrospective sur ces dernières années, c'est-à-dire les 3 ans qui viennent de passer. Non, on va juste pointer une pratique.
L'état. Et la pratique.
Voilà, un tenté.
C'est ça, un instant T.
Et je peux me le permettre, parce que justement, je ne charge jamais les expositions. Je vous dis encore une fois, si on montre 10 pièces, parce qu'elle ne travaille pas sur des formats démesurés, ce seront 10 bonnes pièces. J'en ai la conviction. Je ne prends aucun risque. Je l'ai déjà présenté, en fait, c'est dans un salon du dessin qui est Paris de Lille à Marseille, qui est un salon extrêmement professionnel, où se croisent toutes les générations. C'est un salon qui est recentré sur une quinzaine de galeries, donc c'est, on va dire, un petit format de salon. Mais son travail n'était pas mineur du tout par rapport à ce qui était présenté.
À ce qui était exposé.
Donc,
voilà,
donc je suis confiante.
Elle est encore étudiante ?
Aux Beaux-Arts de Paris.
Et elle avait commencé à Montpellier ?
Oui.
Et elle avait travaillé avec son professeur Gilles Balmé ?
Alors, avec lui et d'autres.
Non, mais je dis ça à Gilles Balmé parce que je crois qu'ils ont. Ils se retrouvent dans la galerie tous les deux en définitive aujourd'hui.
Voilà.
Le professeur, le maître et l'élève.
Oui, alors c'est assez rare, effectivement. Mais bon, je pense que Mona, c'est son cas aussi, puisque je présente. Et je vais présenter dans pas très longtemps Miles Hall, qui a été un de ses enseignants. Donc, c'est-à-dire que quand dans une ville, il y a une galerie et une école des beaux-arts, il y a des chances pour qu'il y ait deux générations qui se croisent.
Oui. Qui émerge, une qui émerge et qui retrouve la précédente, oui, effectivement, mais souvent dans une galerie ou dans un musée, ce qui est quand même assez. Moi, je trouve ça assez beau. Quand on parle de la transmission, quand on parle.
Tout à fait.
On est vraiment dans ce cadre-là, c'est-à-dire que les maîtres et les élèves, à un moment donné, deviennent les égaux aux yeux des regardeurs, entre guillemets.
Oui, alors je crois que c'est un réseau, on va dire, très, très cohérent, parce que dans une ville comme Montpellier, il y a les galeries, il y a cette école qui est extrêmement bien, qui est très affûtée, qui forme des artistes que l'on va suivre au début de leur parcours tant qu'ils restent à Montpellier, puis après on le leur souhaite, voir le monde un peu plus loin. Il y a des enseignants qui sont de très bons plasticiens, mais il y a aussi des institutions, je veux citer le FRAC, le MOCO, qui n'hésitent pas à montrer également plusieurs générations d'artistes,
dont certains. Il y a des liens entre ces écoles et ces institutions qui sont très fortes. On parle maintenant du MOCO, oui. Panacée, etc. Panacée, c'est l'école, effectivement.
Oui,
c'est
tout à fait.
Vous êtes en train de terminer une expo qui donc a commencé en 2023, à la fin de l'année 2023, et qui se termine en ce tout début d'année 2024. Alors, je disais que vous n'aimez pas ça, mais je vais le dire quand même, je trouve que vous êtes un peu la galeriste. Encore une fois, sous des dehors très sages, très élégants et très tranquilles, vous êtes quand même une galeriste de l'impossible. Et vous exposez en ce moment et en même temps que le musée Fabre, un artiste qui s'appelle Jacquard. Et alors, votre expo de Jacquard va s'arrêter là dans quelques jours, mais ça se poursuivra, je crois, jusqu'au mois d'avril au musée Fabre. Mais c'est quand même bien qu'une galerie privée et qu'un musée comme le musée Fabre ait le même artiste en même temps et complète finalement les deux visions de son travail.
Voilà, alors effectivement, ce n'est pas un hasard. Christian Jacquard, je l'avais rencontré en 2017 pour un projet in situ à l'abbaye de la Grâce. Alors, je le précise parce que cette œuvre est toujours visible. Il s'agit d'un tableau éphémère qui est développé quand même sur 80 mètres carrés. Et à l'issue de l'exposition qui avait été montée en 2017, il a contractualisé avec le département qui est responsable de l'abbaye de la Grâce, de façon à ce que l'œuvre, tant qu'elle est en bon état, puisse rester visible et en place, puisque sinon, évidemment,
vous
elle disparaîtra.
Tant qu'elle est en bon état.
Parce qu'en fait, ce sont des traces de carbone. Alors, Christian Jacquard travaille, entre autres, avec le feu. Et donc, ce qu'il avait fait à l'abbaye de la Grâce, c'est ce qu'il appelle des tableaux éphémères, en fait, qui ne sont pas destinés à rester. Le mot tableau étant un peu étrange, hein, il s'agit d'un geste et d'une trace in situ, avec un gel acrylique qui va s'enflammer et qui, une fois que la combustion est terminée, va laisser une trace de carbone, en général assez contrastée sur un fond blanc, donc une trace très, très noire, qui va dessiner et répéter, parce que ça c'est un peu la marque de son travail, sur les tableaux éphémères, un geste, et l'œuvre occupe, disons, ce mur qui est au fond du dortoir des moines de façon très spectaculaire. Voilà. Donc on s'est rencontrés à cette époque et on s'était dit que si l'occasion se présenterait, on ferait un projet ensemble. Il connaissait la galerie. Et donc, il est venu voir le format actuel et on a décidé qu'à l'occasion de la restitution de la donation qu'il fait actuellement au musée Fabre et qui est visible jusqu'au 21 avril, il présenterait une œuvre qui a été rarement montrée, puisqu'il s'agit en fait d'un ensemble de 200 dessins indissociables. Alors, on entend par dessin ce qu'il appelle des inigraphies, c'est-à-dire des dessins par le feu. Donc, il utilise une mèche lente qui, je dirais plus en se consumant, va laisser une trace de carbone sans détruire le papier.
Oui, c'est ça. Ce qui est ça se rapproche un petit peu, oui, effectivement.
Voilà, parce que
j'allais dire qu'il joue avec le feu, mais oui, un peu ça. Mais c'est entre la chimie, l'aléatoire et la création.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, ce sont des dessins qui ont un format assez petit, qui sont positionnés les uns à côté des autres et qui vont
quand
donner
vous dites petit,
à voir.
C'est un A4, grosso modo. C'est
oui,
chose
c'est
comme
30-40.
Ça. Oui, c'est ça. Et il y en a
200.
Dans la petite galerie.
Voilà. Réparti sur la totalité des murs.
Ce qui fait une immense œuvre en définitive,
voilà.
Mais en petits morceaux.
Séquencé, voilà.
Oui, séquencé, tout à fait.
Et donc, ça a été réalisé en un an, entre 2006 et 2007. Ça a été montré deux fois dans des institutions en France. Et donc, la galerie était le bon format pour montrer une œuvre qui aurait pu être montrée également au musée, bien sûr, mais qui, ne l'ayant pas été, est montrée à la galerie en même temps que sa donation, qui est une donation très généreuse d'une quarantaine d'œuvres, toutes
au
musée Fabre. Et toutes ces œuvres documentent le travail de Christian Jacquard jusqu'à 2017. Et c'est un artiste tout à fait passionnant qui a développé son travail selon deux modalités. L'une autour du feu, de ses combustions, sur des supports très différents. Et l'autre autour de ce qu'il appelle les nœuds et le concept supranodal. Donc il y a deux rapports qui vont se compléter, qui ne sont pas en contradiction, mais qui sont très différents, très contrastés. Le temps et au contraire la rapidité. Le temps, c'est les nœuds. Ce n'est pas forcément la lenteur, mais du temps. C'est immobile. Et les objets qui sont recouverts de ces nœuds sont quelque part, perdent toute leur fonctionnalité et disparaissent sous cet enrobage de nœuds. Et puis le feu, où il y a toujours, je dirais, une part d'aléatoire, de risque, de perte de contrôle, et cette rapidité, cette quasi-instantanéité du geste.
Mais vous m'avez amusée parce que je suis venue donc voir cette exposition. Je n'ai pas encore vu celle du musée Fabre, mais j'ai vu l'exposition donc dans votre galerie. Et vous m'avez dit, mais ça tient peut-être au fait que c'est un ancien louveteau.
Oui.
Donc il faisait du feu et il utilisait les nœuds. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est bien aussi à un moment donné, de montrer aussi qu'il y a un lien avec d'un intérêt supérieur, mais l'intérêt supérieur souvent s'explique par des choses basiques de notre enfance, de souvenirs, de réminiscences, de choses qui marquent petit à petit, qu'on développe et qu'on peut ensuite renvoyer vers une création.
Ah oui, alors je me suis permise de dire ça parce que lui revient au manuel du louveteau et il revient effectivement à ses expériences presque enfantines mais qui sont totalement inoubliables. C'est quasiment un manuel de survie, savoir faire du feu, savoir faire des nœuds et ça ne l'a jamais quitté.
Savoir donc, faire cette du feu sans mettre le feu.
Oui, sans mettre le feu.
Parce qu'en fait, c'est les papiers. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça brûle juste comme il faut. Je veux dire, les papiers qu'il utilise et les mèches qu'il utilise, ça ne met pas la feuille en flamme. Ça dessine une forme et ça s'arrête, ça commence au bon moment et ça s'arrête au bon moment.
Tout à fait. Alors,
une maîtrise.
Christian Jacquard est un artiste qui est très cérébral dans le contrôle de ce qu'il fait, mais aussi dans l'expérience. Je pense que le chant du feu est un chant d'expérience, mais quasiment existentielle. Enfin, je pense qu'il y a un rapport comme ça qu'on a chacun avec le feu, très différent. Il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé avec, et même par, je dirais, par soustraction. Je pense à Jean-Pierre Reynaud, qui a travaillé autour de la notion de feu, d'incendie, de risque, de disparition, sans jamais mettre le feu à quoi que ce soit, mais montrer un extincteur.
Oui, oui.
Donc, la dimension existentielle du feu est réelle et donne lieu à des interprétations tout à fait intéressantes et passionnantes.
Donc, dans cette galerie, on rencontre des gens que vous suivez depuis un moment, des tout nouveaux venus, des gens assez étonnants comme Jacquard. Donc, on travaille bien sur l'intergénérationnalité. En ce qui concerne les regardeurs, il nous reste deux petites minutes pour en parler, c'est-à-dire les gens qui viennent voir dans votre... Vous fonctionnez plutôt comme un centre d'art, en fait, j'ai le sentiment, moi. Mais c'est mon point de vue. Vous avez des gens qui vous suivent aussi, qui suivent effectivement l'évolution de cette galerie, de votre travail. Puisque...
Alors, c'est d'abord une galerie, en ce sens que les amateurs, les collectionneurs, les curieux qui viennent, qui suivent la programmation, peuvent évidemment acheter les œuvres. Ce qui ne caractérise pas un centre d'art qui est affranchi de toute dimension commerciale. Donc, je suis aussi là pour convaincre les amateurs quand ils aiment une œuvre. Je dirais de passer à l'acte et d'aller au-delà, je dirais, de la simple curiosité et de partager un moment de la vie d'une œuvre. Mais voilà. Par contre, effectivement, c'est le lieu d'un échange avec les artistes particulier en ce sens que le projet que l'on fait ensemble est un projet qui, sans s'affranchir de la dimension de la vente, va être un projet qui va pointer quand même un intérêt très partagé par l'artiste pour un moment donné de son œuvre, ou pour un médium, ou pour un protocole particulier. Et c'est en ce sens-là que, voilà, on ne va pas être dans la démonstration des possibles, mais simplement...
Vous n'êtes pas dans la séduction,
alors,
le moins possible.
Il y a toujours une dimension de séduction dans une œuvre. Ça fait partie, on va dire, du cadre de l'expérience. Et puis, il y a toujours une dimension esthétique, quand même. Même si elle n'est pas caractérisée systématiquement dans toutes les expositions. Mais voilà, c'est pas un centre d'art, hein, du tout. Et je n'aurais pas.
Non, mais je dis ça peut fonctionner un peu comme
ça. C'est un lieu.
C'est un lieu. Voilà, c'est assez indéfinissable, en fait.
Ça
tient beaucoup à votre personnalité, aux artistes que vous montrez, à la façon dont vous les montrez, tout en sachant évidemment que c'est aussi une galerie où on peut se faire plaisir quand on a un vrai coup de cœur. Vous nous donnez en quelques instants le programme de la galerie pour l'après-Jacquard, si je puis dire.
Voilà, alors l'exposition de Christian Jacquard à la galerie continue jusqu'au 3 février. Ensuite, je vais présenter le travail d'un artiste sud-coréen qui s'appelle Moon Pilchim, que j'ai déjà présenté plusieurs fois à Montpellier. Et puis, Miles Hall, qui est un Montpellierin, qui est un artiste d'origine australienne qui enseigne à l'École des Beaux-Arts de Montpellier. Et puis, nous en parlions tout à l'heure, Nicolas Dauban, qui sera présent à la galerie avec donc un projet que je ne peux pas encore trop décrire, à partir du mois de juin.
L'année est bouclée pratiquement.
Et puis ensuite, en septembre, il y aura Anna Jacou. Puis ensuite, une jeune artiste très passionnante qui s'appelle Delphine Renaud.
On vous tiendra au courant, on va tenir au courant les auditeurs, puisque vous avez la gentillesse de m'envoyer votre programmation et vos actualités. Donc, on les tiendra au courant au fur et à mesure des mois qui passent. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Marie-Caroline, d'être venue. Merci à Adrien qui a assuré la technique. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Là, nous allons retrouver votre émission de jazz favorite du vendredi après-midi, qui s'appelle, je crois, Caravane, je ne veux pas dire de sottise, enfin, en tout cas, c'est l'émission de jazz qui est très appréciée sur cette antenne. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end, que nous soyons le vendredi après-midi ou le dimanche soir. Il reste encore quelques heures le dimanche soir pour finir de passer le week-end.
Merci beaucoup, Maria.
Au revoir.